Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2021 de la saison NFL avec Touchdown Actu. Un jour, une preview au programme aujourd'hui, les Dallas Cowboys avec Lucas Vola, bonjour.
Salut messieurs.
Grégory Richard.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
On parle donc de cette équipe de Dallas qui a joué la plupart de la saison dernière sans Dak Prescott. Je préviens, on enregistre les previews un peu en avance. Au moment où on se parle, l'épaule de Dak Prescott est en voie de guérison. Il a repris les lancers, mais il doit passer une IRM. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On va partir du principe qu'il devrait être prêt pour la semaine 1 et on mettra éventuellement les bémols. 6 victoires, 10 défaites la saison dernière pour Dallas. Pendant l'intersaison, ça a été plutôt calme du côté des arrivées, à part chez les safeties où on a signé Malik Hooker, Keanu Neal et Damonte Kazi, Brent Urban, Carlos Watkins sur la ligne défensive, Tainishki sur la ligne offensive. Mika Parsons a été la grosse recrue du côté de la draft. Et puis, on a perdu Andy Dalton, Joe Looney, Aldon Smith, Tyrone Crawford, Sean Lee, Chidobe Awuzie et Xavier Woods. Lucas, cette équipe de Dallas, on a gagné 6 l'an dernier, dont 4 sans Dak Prescott. Est-ce que le retour de Dak Prescott fait deux d'immenses favoris en NFC Est ?
Oui, tout simplement oui. Parce que bon, déjà, la division, elle n'est pas forcément incroyable. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit cette année de nouveau, même si certaines équipes progressent. Maintenant, oui, ce sont les immenses favoris. Dak Prescott revient. L'année dernière, il était en piste pour faire une saison à 5 milliards, je crois. Voilà, sous réserve que son épaule aille bien. Comme tu dis, on va partir du principe que oui. Je pense qu'il peut atteindre les 5 milliards cette année. Il a une attaque incroyable autour de lui. Je pense qu'il n'est pas loin d'avoir le meilleur trio de receveurs de la Ligue. On va mettre peut-être les Buccaneers devant. Mais CeeDee Lamb, Gallup et Amari Cooper, c'est quand même très, très fort. On oublie, mais il y a Ezekiel Elliott derrière qui peut aider. Il ne fait pas milliard l'année dernière, mais il n'est vraiment pas loin. Il est toujours à 4 yards par course, je crois. Donc, ça fait quand même une attaque très, très solide. Une ligne offensive, on ne la présente plus, mais qui est peut-être pas aussi forte qu'elle l'était, mais qui reste toujours parmi les meilleures lignes offensives de la NFL. Ça fait voilà, tout ça ajouter un Dak Prescott qui commence à être vraiment très solide. L'attaque peut faire des dégâts. La défense, on en parlera peut-être plus tard, mais rien qu'avec l'attaque, ça les rend favoris de cette division.
Ouais. Trois receveurs étaient à plus de 800 yards l'an dernier. Ezekiel Elliott reste une référence quand même à son poste. Dak Prescott, c'est 106 touchdowns et 40 interceptions en carrière. Greg, est-ce que ça te semble assez solide pour aller chercher cette division ?
Oui, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lucas. Globalement, il y a pas mal de choses que je rejoins. C'est sûr que on est quand même assez excité de voir ce que ça peut donner, notamment cette entente avec le trio grand complet, hein, parce qu'avec CDM, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est vrai qu'encore une fois, on s'intéresse au quarterback. C'est sûr que perdre ces deux tackles titulaires méga valeur sûre ces dernières années, c'est quand même pas la meilleure chose également pour se redresser un petit peu du côté des Cowboys. Il y a eu beaucoup de paramètres qui ont expliqué leur mauvaise saison passé. Je suis pas sûr que l'attaque soit le principal point négatif en l'occurrence, et ça fait que avec le retour d'un quarterback comme Dak Prescott, on est quand même en droit de s'attendre à ce que cette équipe soit bien meilleure que ce qu'a pu laisser entrevoir leur fiche de 6-10.
Dak Prescott donc ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème du côté de la ligne offensive, parce que là il y a beaucoup beaucoup de belles armes, donc là ils peuvent gagner avec ça, mais est-ce que cette ligne offensive peut pas quand même modéré ou pas ruiné, parce que c'est un bien grand mot, mais c'était que le 17e jeu au sol l'an dernier. On les a connus plus haut quand même avec Ezekiel Elliott et une ligne plus forte. Il y a eu des blessures aussi du côté de la ligne offensive. Est-ce que ça pourrait ruiner leurs efforts, Lucas ?
Non, je pense pas, parce que Greg en a parlé. Il manquait des éléments sur cette ligne offensive l'année dernière qui sont censés revenir. Reste à savoir comment ils reviennent, mais on va leur donner le bénéfice du doute. Il y a Tyron Smith qui va revenir, Lyle Collins. Moi, je trouve que cette ligne offensive, oui, on a cette image de la ligne offensive des Cowboys qui reste la meilleure de la ligue. Elle l'a été pendant quelques années, mais ça commence un petit peu à remonter. C'est plus tout à fait vrai, mais je la mets quand même dans le top 5 des lignes offensives quand il y a tout le monde. Et quand tout le monde revient à ce niveau-là, pour moi, ça fait partie des forces de cette attaque. Pour moi, je vois pas cette ligne offensive tirer l'attaque vers le bas.
Ok, pas trop d'inquiétude. Donc pour vous, ça reste une attaque très complète, quoi, Grégory.
Ouais, ouais, non, très franchement, c'est sûr que. Alors, encore une fois, c'est vrai que perdre les deux tackles, quand en plus tu as accusé la retraite anticipée de Travis Frederick, c'est sûr que c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Et ouais, trois éléments sur cinq sur une saison, même si on a un Zach Martin qui ne démérite toujours pas, c'est sûr que c'est pas hyper rassurant. Après, moi, ce qui me fait dire que je suis un peu rassuré, même si encore une fois, Tyron Smith, il me semble que c'est une opération au coup, hein, si je me trompe pas l'an passé, je vais pas dire de bêtises. Donc ouais, en effet, par rapport à ce que disait Lucas, c'est quand même malgré tout un peu touchy, mais c'est que quand même, le front office de Dallas a pas choisi pendant l'intersaison de considérer le poste de tackle, par exemple, notamment par le biais de la draft. C'est que malgré tout, ils se disent qu'il y a sans doute moyen de tirer beaucoup plus de ce groupe-là avec forcément les titulaires indiscutables qui reviennent. Donc oui, non, franchement, sur le papier, à mon sens, il y a quand même suffisamment d'armes pour faire en sorte que cette attaque soit efficace. On a vu qu'elle a gagné des matchs même avec Garrett Gilbert de mémoire. Donc tout n'est pas, tout est possible.
Alors ça, on peut dire assez clairement quand même que le poste de quarterback remplaçant, si jamais l'épaule de Dak Prescott par exemple n'allait pas bien, ce serait un problème quand même parce que ça a toujours pas été géré. On a donné un gros contrat à Dak Prescott derrière. Toujours pas grand monde, quand même. Si je dis pas de bêtises, c'est Garrett Gilbert, Ben DiNucci et Cooper Rush.
Ouais, et puis, j'ai l'impression qu'à Dallas, c'est un petit peu récurrent ces dernières années. On se rappelle quand il y avait Tony Romo et qu'il n'y avait pas vraiment de quarterback derrière dès qu'il se blessait. Et malheureusement, sur la fin, ça, comme, c'était assez souvent, assez régulier. Ça a douché un peu les espoirs de l'équipe. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire on prend un deuxième quarterback très solide en imaginant que notre quarterback titulaire se blesse, même si on ne le souhaite pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il se blesse, on regarde derrière et on se dit c'est dommage.
Bah, et puis surtout qu'il revient de blessure en l'occurrence. Hein. Donc là, pour le coup, autant il y a des équipes qui sont sereines, autant eux, ils ne se sont pas affolés là-dessus. On continue de chercher un petit peu ce qui pourrait les faire perdre. Et là, il faut se tourner vers la défense quand même, Lucas.
Ouais, les Cowboys, c'est très schématique, je trouve. C'est que ce qui peut les faire gagner, c'est l'attaque. Ce qui peut les faire perdre, c'est la défense. C'est très caricatural, mais je trouve que c'est vrai. C'est un peu à l'image de cette franchise qui fait pas vraiment les choses à moitié. Mais c'est vrai que la défense, elle me rassure pas du tout. Mis à part peut-être la ligne des linebackers avec la draft de Micah Parsons, le reste. Que ce soit la ligne défensive, que ce soit la couverture aérienne, c'était une des pires défenses de la ligue, je crois, l'année dernière. En tout cas, contre la course, déjà, c'était catastrophique l'année dernière.
Ouais, Houston a fait pire de mémoire.
Ils sont 28e sur les points encaissés au général, de toute façon.
Donc voilà. Et comme on le disait, j'ai pas vu beaucoup d'améliorations. Alors après, il y a eu beaucoup de draftés. Je crois que les 4-5 premiers joueurs draftés sont du côté de la défense. J'ai pas le chiffre exact, mais pour voir un joueur offensif drafté, il faut aller loin du côté des Cowboys. C'est bien qu'il y ait un souci, mais même ça me rassure pas. Voilà, j'ai du mal à voir cette défense s'améliorer.
En effet, il faut descendre. Voilà, attends que je ne dise pas de bêtises, mais il faut descendre aux 5, 6, 7. Tac, defensive tackle, les linebackers, offensive tackle, 138e choix de la draft. Et derrière, ça a pris un receveur aussi et un garde. Mais ce sont trois choix sur beaucoup de choix qui sont allés en attaque. Grégory, sentiment partagé, il n'y a pas l'impression en plus d'une amélioration significative. Alors, il y a l'arrivée de Micah Parsons, mais tu perds aussi Chidobe Awuzie qui était un cornerback, pas le tout haut du panier, mais qui était quand même correct, qui laisse la place encore à un nouveau rookie. C'est un peu la reconstruction permanente, d'ailleurs, dans le backfield hein, pour Dallas ces dernières années.
Oui, après, je pense que c'est l'accent, en tout cas, sur le run stop est quand même assumé. Je pense qu'en effet, Micah Parsons, c'est vrai qu'on regarde beaucoup le profil linebacker, mais c'est un linebacker qui sait faire énormément de choses, notamment rusher. Un secteur sur lequel Dallas n'était pas non plus fabuleux l'année dernière. C'est quand même milieu du panier moins, on va dire. Ça faisait pas partie des top défenses en termes de pass rush. Donc, ça va faire du bien sur les deux compartiments de jeu. Et après, c'est sûr, je pense qu'on s'est plus activé à rectifier le tir, on dira, en termes de run stop, notamment avec certaines arrivées. Hein, je pense, bien entendu, à Keanu Neal. qui a du savon sur les doigts quand il faut jouer les playoffs à la réception, mais en tout cas, a priori, sur le run stop, on n'a pas eu grand-chose à lui reprocher du côté de la Géorgie. Et puis oui, on attend peut-être le développement de certains joueurs. Je pense à un Neville Gallimore sur l'intérieur de la ligne défensive, qui était un prospect assez attendu lors de sa sortie de la draft en 2020. Donc oui, c'est sûr que tout n'est pas rassurant sur le poste de cornerback, par exemple. Le pass rush me paraît pas transcendant de nouveau sorti des Marcus Lawrence. Donc c'est sûr que c'est un petit bémol. Après, voilà, on a pris une direction du côté de Dallas, peut-être au détriment du jeu contre la passe, même si très clairement, le jeu contre la passe était quand même beaucoup moins à la rue que ce qu'on avait pu voir sur le run-top.
Ça semble très clair, tu disais Lucas, c'est-à-dire qu'il gagne en attaque, il perd en défense. Est-ce qu'il y a un facteur X dans tout ça ou alors est-ce qu'on a des valeurs connues partout?
Je vais rester dans la caricature, hein. Il gagne en attaque, il perd en défense. Le facteur X, il est au milieu. Pour moi, c'est le coaching staff. Pour moi, c'est les entraîneurs. Je dis les entraîneurs parce que il y a pas mal de choses qui a changé cette année. Dan Quinn est arrivé en tant que coordinateur défensif. Voilà, Dan Quinn, bon, c'est l'entraîneur d'Atlanta, mais c'est aussi le coordinateur défensif de l'époque de Seattle. On peut avoir l'espoir qui en repassant coordinateur défensif, il recrée une défense qui est un petit peu solide, qu'il arrive à faire avec des éléments qui sont pas forcément incroyables, comme on vient de le dire. Mike McCarthy, on sait que c'est un coach qui est pas mal critiqué. L'année dernière, pour sa première saison à Dallas, il fait une saison moyenne. Il a l'excuse, on va dire, entre guillemets, de la blessure de Dak Prescott. Cette année, il ne devrait pas avoir d'excuses, pardon. J'ai eu du mal à le dire, mais voilà, pour moi, c'est le coaching staff qui peut rendre l'attaque, elle va fonctionner. La défense, il va falloir la pousser un petit peu pour qu'elle fonctionne. Et pour moi, ça vient des coachs.
Greg, sans parler même de Mike McCarthy, mais surtout Dan Quinn, en effet, est l'homme clé avec sa capacité à mobiliser cette défense.
Oui, bah déjà par rapport au pass rush dont je parlais tout à l'heure, c'est sûr que alors c'est pas son seul rôle, mais c'est sûr que non seulement ça a été le coordinateur défensif des Seahawks, ça a été le coordinateur défensif des Seahawks qui ont gagné le Super Bowl en l'occurrence, que des bons coordinateurs défensifs il y en a eu à Seattle. Lui en tout cas a réussi à concrétiser tout ça en effet avec de très bons joueurs. Hein. À l'époque, il y avait des Cliff Avril, des Michael Bennett, etc. C'est sûr que sur le papier, il n'y a pas le même style, mais en tout cas, oui, ça a souvent été du côté de cette équipe de. Voilà, du côté d'Atlanta, même s'il n'y avait jamais eu un run stop assez fabuleux, on dira au niveau des lignes arrières, on a toujours eu des joueurs assez explosifs, assez actifs, sujet un peu à concéder des big plays, mais je pense qu'en tout cas, du côté de Dallas, on va avoir à cœur, en effet, de renforcer cette escouade et c'est de donner peut-être un petit peu plus d'agressivité à ces DB. Voilà. Après, il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai qu'il y a ces défenses en zone un peu fréquentes qui des fois explosent l'équipe. Mais oui, je pense qu'en tout cas, il y a les armes. Et oui, ça c'est clairement un facteur X, ne serait-ce que de par ce qu'on a vu de la part de Mike Nolan la saison dernière.
Moi, j'avoue que j'attends pas grand-chose de leur ligne. Donc, en fait, en facteur X, j'avais mis leur ligne offensive parce que j'ai peur que s'il y a encore quelques blessures ou quoi, ça écroule même ce qui était bon. Et alors là, pour le coup, ce serait catastrophique pour eux. Et encore plus avec un Dak Prescott touché à l'épaule pendant le camp d'entraînement, où on sait jamais vraiment à quel point ils sont transparents. Ça pourrait revite tourner à la saison gâchée s'il se faisait cartonner en semaine 5 ou 6. Donc je vais être sur la ligne offensive, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que la défense, de toute façon, aura un rôle primordial. Il faut qu'ils
Juste
élèvent
si
leur
tu...
niveau de jeu.
Ouais, juste si tu me permets, un facteur X, ouais, enfin, blessure forcément, hein. J'ai parlé de l'attaque en défense, il y a l'éternel imbroglio autour de Leighton Van Der Esch qui commence à devenir un joueur de porcelaine, donc voilà, c'est sûr que, et en attaque et en défense, il y a quand même des postes clés où il faudra aussi que les joueurs restent un minimum en forme pour pouvoir réussir à dominer cette NFCS.
Le calendrier, ça commence par un déplacement à Tampa, ensuite chez les Chargers, les matchs suivants, Eagles, Panthers, Giants, à New England, à Minnesota, Denver, Atlanta, Kansas City à l'extérieur, Las Vegas, les Saints à l'extérieur, Washington à l'extérieur, les Giants à l'extérieur, Washington, Arizona et à Philadelphie. Ça termine par un calendrier qui est quand même pas hyper ardu, hein. C'est-à-dire que sur les dernières semaines, ça joue Philadelphie, Arizona, Washington, New York, Washington. Bon, tout ça semble quand même prenable pour eux, même New Orleans sans Drew Brees, même Las Vegas. S'ils chauffent au bon moment, ça peut, dans une division NFCS toujours plutôt enclin à être faiblarde, ça peut être bon pour eux. À combien de victoires tu les vois, Lucas?
Moi, je suis hypé, messieurs, pour les Cowboys. Je suis
Ok,
hypé.
j'aime bien que quelqu'un s'engage avant moi,
Voilà,
parce que comme
je vous le
ça
dis.
tombera pas sur moi.
Voilà, je vous le dis. Écoutez, on va voir. Je crois que c'est la première fois que je l'annonce depuis les quelques dernières pastilles qu'on a fait. Mais, et j'ai dû me calmer. J'ai annoncé, en tout cas, je me suis écrit un 17 pour les Cowboys. Et encore, je me suis retenu.
Ah ouais, t'es calme. Pour une hype, moi j'attendais du 12 victoires.
Voilà, je surveille mes arrières quand même.
Ouais, bah moi j'étais à 17 aussi, tu vois. Et en me sentant justement pas hyper hypé, en me disant c'est leur standard, ils pourraient aller plus haut si la défense se met à bien fonctionner.
Ouais, mais je vais pas être très original. Juste rectifier, hein, j'ai dit une énorme bêtise, bien sûr, tout à l'heure. Les Cowboys n'ont pas gagné le match avec Gary Gilbert, bien entendu. Donc, mea culpa, fiche 17 également. Ça me paraît pas mal. Ça peut être une équipe, en effet, qui peut tirer profit des petites embrouilles du côté de Green Bay ou en tout cas d'une NFC West hyper compétitive. S'ils arrivent à être performants dans leur division, ce que je pense peut être le cas.
Alors, par contre, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le statut de favori NFC Est. Je ne vous ai pas
Ah.
contredit là-dessus au tout début, mais...
Tu vois une équipe meilleure que 17 dans la NFC Est? Sachant que ça croise avec la NFC Sud, donc Tampa,
Ouais,
donc.
mais je vois des équipes avec une meilleure défense qu'eux, quoi, dans la NFC Est. Donc,
Très bien. Bah,
mais...
ne nous spoile pas, hein, je ne sais
Voilà.
pas ce que je demande. Hein.
Il
Ça
y en
dépend
a
de
qui
qui
ont
joue.
été, on en parlera, mais que je trouve un poil mieux construit, qui n'ont pas le même potentiel du tout en attaque, on est d'accord. Mais que je trouve plus cohérente et qui, du coup, en cas d'épreuve, de blessure, etc., pourrait finalement survivre un peu mieux. Donc, voilà, ils sont évidemment parmi les meilleurs, hein, mais pour pas tant que ça, quoi. Je les vois pas hyper favoris vraiment de cette division. Donc, 17 pour tout le monde, alors.
17 pour tout le monde.
Et donc, bah, ça lutte pour les playoffs à 10 victoires, ou ça gagne la division d'ailleurs à 10 victoires en général dans la division. C'est la fin de cette preview des Cowboys. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On vous remercie évidemment même si vous ne nous soutenez pas sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur, pas un autre réacteur, ça c'est autre chose. Un autre rédacteur sur touchdownactu.com, Twitter et Facebook @TDActu et Instagram @TouchdownActu. On vous retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci beaucoup Greg, merci beaucoup Lucas. Ciao ciao.